Bonjour, nouvelle édition de l'économie en question. Quatre experts comme chaque samedi pour commenter l'actualité de la semaine, pour échanger leurs analyses, pour les rapprocher, les opposer, éclairer en tout cas les enjeux par des références à la théorie économique, aux travaux de leurs aînés ou de leurs contemporains. Et de théorie économique, justement, il va en être question ce matin pour notre premier sujet, puisque nous rendons hommage à notre tour au lauréat 2014 du prix Nobel d'économie Jean Tirole, directeur de la Toulouse School of Economics, primé pour son analyse, et là je cite l'Académie, pour son analyse de la puissance du marché et de la régulation. C'est ainsi que le comité Nobel l'a présenté, comme un des économistes aussi les plus influents de notre époque, et couronné, je cite encore, pour avoir éclairé la manière de comprendre et de réglementer les industries avec quelques entreprises importantes. C'est un cadre, selon l'Académie Nobel, pour concevoir des politiques, et il l'a appliqué à un certain nombre de secteurs, on va le voir, qui vont des télécoms jusqu'à la banque, ceci en s'inspirant de ces nouvelles perspectives. Les gouvernements pourraient donc mieux encourager les entreprises puissantes à devenir plus productives et dans le même temps les empêcher de faire du tort à leurs concurrents et aux consommateurs. Voici comment ce prix a été attribué en ces termes. Ceci pour dire que Jean Tirole, donc spécialiste de la nouvelle économie industrielle, a également publié de très nombreux travaux théoriques sur un très grand nombre de domaines. On va y revenir avec mes invités qui tous connaissent parfaitement bien l'homme et le chercheur. Examen de ce parcours et de l'influence de cette pensée autour de Jean Tirole. Notre titre, des travaux de l'expert aux applications du politique. Et notre deuxième sujet, il pourra d'ailleurs partir d'une note de Jean Tirole. Et mercredi, en Conseil des ministres, on le sait, la ministre Marisol Touraine a présenté son projet de loi santé, qui devra ensuite être voté au Parlement. Prévention, innovation, politique de santé, service territorial sont les grands chapitres. Nous nous arrêterons sur les principales mesures et l'occasion surtout d'examiner un système qui a largement fait ses preuves, mais qui se trouve, et depuis déjà de nombreuses années, fragilisé par ses coûts, par ses déséquilibres et, on peut le dire, par ses dérives. Nous sommes donc aujourd'hui en compagnie de Patrick Artus, directeur des études à Natixis, Brigitte Dormont, professeure d'économie à l'Université Paris-Dauphine, où elle dirige la chaire santé de la Fondation du Risque, Philippe Askenazy, directeur de recherche au CNRS, et David Tesmar, professeur de finance à HEC. C'est l'économie en question, Dominique Rousset. Bienvenue à tous et nous sommes ensemble jusqu'à midi. On commence donc par parler de Jean Tirole et de ses travaux, en ayant rappelé, mais cela a été longuement, je crois, commenté, que c'est la première fois depuis 2008 que ce prix Nobel d'économie, dont on sait qu'il ne s'appelle pas comme ça, mais on ne revient pas encore là-dessus, est attribué à un seul économiste. C'est intéressant, c'était souvent une paire, et que par ailleurs, deux Français ont déjà reçu cette distinction avec lui, que vous appréciez d'ailleurs, je crois, les uns et les autres, Gérard Debrou en 83 et surtout Maurice Allais en 1988. Cela vient rejoindre le succès international du livre de Thomas Piketty et le fait que 7 Français sur la liste de 25 économistes jugés influents par le Fonds monétaire international, influent, c'est le terme qui a été repris par le comité Nobel, et d'ailleurs, Philippe Askenazy, petit hommage, tous passés par la Paris School of Economics, 7 Français donc figurent dans cette liste. C'est pas si mal, ça donnera peut-être l'occasion de parler de l'école française, si vous jugez qu'il en existe une. Jean Tirole, vous l'avez tous connu, je rappelle, sans vous offenser, que vos âges sont très différents. Autour de cette table, vous l'avez connu à des titres divers. Commençons par le plus jeune, David Tesmar, qui a été son élève.
Alors, j'ai été son élève parmi beaucoup d'autres, c'est-à-dire que j'ai suivi ses cours au milieu des années 90, quand il est revenu des États-Unis. C'était un cours assez court d'économie industrielle, donc là où on explique justement non pas la puissance du marché, mais le pouvoir de marché, c'est-à-dire le fait que les monopoles, qu'il y ait des monopoles dans l'économie, et comment comment la concurrence, quand elle n'est pas parfaite, en gros, aboutit à, bah, pas forcément à des choses qu'on veut et comment on peut faire pour le réguler. Donc il a parlé de ça pendant 12 à 18 heures, dans mon souvenir. Et je crois que c'est là que j'ai appris 80% de la microéconomie que je sais aujourd'hui encore. donc c'est quelqu'un qui a les idées, donc, en tant qu'enseignant, hein, donc après, mais ça se traduit dans sa recherche, c'est quelqu'un qui a les idées extrêmement claires. C'est vraiment c'est un formidable orateur. Hein. Et surtout quelqu'un qui a les idées très 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 claires. Donc c'est ça qui est très très frappant chez lui, et c'est ce qui lui a permis en fait d'être l'économiste éclectique qu'il est. C'est-à-dire que il utilise toujours un peu les mêmes outils, c'est vrai, la microéconomie. Donc ça veut dire que c'est un présupposé, disons, d'individualisme méthodologique très fort. C'est-à-dire qu'on a toujours des gens qui réagissent à des incitations, qui sont punis, qui cherchent des récompenses, etc. Et donc voilà, donc du coup on régule, mais alors le régulé cherche à éviter la régulation. Donc comment faire pour s'assurer que voilà. Donc c'est vraiment toujours un peu ce genre de questions qui se posent dans des champs très 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 divers. Je crois qu'on va parler de ces champs, on va essayer peut-être de parler de ces contributions. Mais de manière générale, ce qui est amusant dans ce prix Nobel, hein, c'est que on récompense, c'est pas si fréquent, j'ai même pas vraiment d'autres exemples en tête, un économiste généraliste, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est attaqué à beaucoup de sujets différents, ce qui est un peu une tradition française, c'est-à-dire que même dans le monde universitaire, c'est un peu comme ça qu'on est venu, même à l'étranger, souvent. Donc les gens en particulier qui font leur carrière en France, hein, enfin en Europe et pas aux États-Unis, ont tendance à se disperser un peu. Donc du point de vue des Américains, c'est de la dispersion un peu inutile.
Alors que les Français défendent cette...
certains d'entre eux, en tout cas.
Manière de travailler.
Moi, par exemple. Ouais. non, mais c'est... Bon, donc voilà. Donc, en tout cas, c'est une récompense à une forme de tradition française d'un économiste, presque un peu économiste dans la cité. Alors même qu'il est vraiment dans le sérail, du sein des universitaires. Oui. Il a fait sa thèse au MIT.
Et qu'il se défend d'être conseiller du prince. Il ne cherche pas du tout, en tout cas, à occuper la place de... Il n'a pas envie d'aller à l'Élysée toutes les semaines pour conseiller. Mais en revanche, il voit bien que ses travaux sont suivis. Contrat unique, taxe de licenciement, permis de polluer, Union bancaire européenne et assurance maladie. On va en parler avec Brigitte Dormont. Parmi les sujets sur lesquels il s'est exprimé, il y en a bien d'autres. C'est pour ça que j'ai mentionné d'ailleurs celui sur lequel avait appuyé l'Académie Nobel en le distinguant. Brigitte Dormont, vous êtes comme lui membre du Conseil d'analyse économique. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous l'ont été aussi ou le sont encore. Et vous avez donc assez récemment travaillé sur une note sur la santé. On va y revenir. Mais comment jugez-vous, vous aussi, les travaux de ce grand économiste ?
Alors, donc moi, je suis plus âgée que David Tesmar. Mais j'ai connu les travaux de Jean Tirole, surtout effectivement à travers sa pédagogie au début. J'ai passé l'agrégation. Enfin, je suis devenue professeure des universités en 90. Et effectivement, son livre d'économie industrielle faisait autorité. Et j'ai découvert la même... avec le même plaisir, la clarté d'explication de Jean Tirole. Pour revenir sur ce qu'a dit mon voisin aussi, moi je suis très amusée par la traduction du communiqué de l'Académie de Suède, parce que ce n'est pas du tout puissance du marché, c'est l'analyse du pouvoir.
Je l'ai lu d'extasso en effet.
Oui, c'est market power, mais qui se traduit par pouvoir de marché, c'est-à-dire que Jean Tirole s'est intéressé à tous les cas de figure où dans un marché, des entreprises ont un pouvoir excessif qui leur permet d'avoir des rentes et donc d'extraire beaucoup de bien-être à leur profit, au lieu que ce bien-être profite à tous les citoyens. Donc c'est une œuvre que je trouve extrêmement intéressante, vu de mon point de vue. Je travaille donc dans une des sphères de l'économie publique, qui est l'économie de la santé. Les travaux de Jean Tirole sont à mes yeux extrêmement fondamentaux sur l'analyse de l'action publique et de l'État. Et ça, c'est une véritable tradition française. Donc il y a Debreu aussi, et Allais aussi étaient des ingénieurs français, et ils ont analysé le rôle de l'État. Et Jean Tirole est allé très loin sur des thèmes qui sont importants, dont on reparlera peut-être, qui sont de ne pas considérer que l'État, a priori, va agir pour le bien-être des citoyens, que c'est plus compliqué que ça, qu'il y a des acteurs au sein de l'État qui sont agis par un certain nombre de contextes, de pressions, de lobbies, et que donc il faut réfléchir, ouvrir la boîte noire de l'État et réfléchir à la façon dont les responsables politiques prennent leurs décisions et à la façon dont il faut organiser leur rémunération, leur élection et l'organisation du pouvoir, la prise de décision pour que l'État agisse véritablement dans le sens de l'intérêt collectif. Donc là, à mon avis, il a fait vraiment une réflexion tout à fait importante Alors, si je peux ajouter quelque chose dans l'attitude de Jean Tirole, moi, ce qui, en tant qu'universitaire, me semble exceptionnel et très important à souligner, c'est aussi son investissement dans l'université française. C'est-à-dire qu'il est revenu en France, il s'est investi pour mettre en œuvre, pour construire une université avec une aura internationale, et c'est véritablement un modèle pour notre pays où les universités sont vraiment mises à mal.
Oui, on le voit ces jours-ci, d'ailleurs, elles nous le font savoir. Et d'ailleurs, effectivement, dans les 7 Français que j'ai mentionnés, cette fameuse liste d'économistes influents, il faut quand même dire qu'ils sont tous à l'étranger, sauf Jean Tirole et Piketty, Thomas Piketty, qui est également revenu en France. Donc, on continue notre petit tour de table.
Tirole
n'était pas dans les 7. Mais Thomas Piketty, il est bien. D'accord. Et vous avez raison d'avoir repris ce terme de puissance qui est celui qui était officiellement traduit. Mais je crois que Tirole lui-même l'a corrigé. On continue, Philippe Askenazy, tout en nous éclairant sur ses travaux, en avance, sur votre expérience personnelle auprès de lui.
Parce que chacun décrit son âge, j'ai à peine plus que David Tesma. Et disons que, depuis que je fais de l'économie...
Et vous êtes allé à PSE, hein,
oui,
Paris School of Economics.
Paris, oui, tout à fait. Enfin, par ailleurs, pour le coup, si on réfléchit en termes de concurrence, il y a une volonté en France de créer des séries de grosses écoles qui se font une concurrence, mais dans un bon sens du terme, pour essayer de faire progresser la connaissance en économie en France. Alors, Jean Tirole, depuis que je fais de l'économie, on dit qu'il va avoir le prix Nobel. Donc, en soi, c'est vraiment pas du tout une surprise. Et tout simplement parce qu'il a créé un champ scientifique. On a parlé de nouvelle économie industrielle. Même d'une certaine manière, l'économie industrielle était très basique avant qu'il arrive avec une nouvelle approche, l'usage de la théorie des jeux de manière assez massive, et des notions centrales comme l'asymétrie d'information. Et donc, ça, c'est vraiment un apport considérable à la science économique, mais en termes d'outils. Et je pense que c'est pour cela aussi on dit qu'il est éclectique, qu'il s'est intéressé à différents sujets, etc. Mais c'est parce que finalement, il ne vient pas avec une conclusion qui serait la concurrence, c'est bien, ou une conclusion qui est la monnaie ne sert à rien. Mais en fait, il faut regarder marché par marché, les mécanismes qui sont à l'œuvre. Et donc, ce n'est pas une réponse unique, mais ça dépend. Et il faut travailler sur chacun des thématiques, des sujets, des questions, en reprenant donc les outils qu'il a introduits, puis d'autres outils, pour arriver à comprendre quelles peuvent être les bonnes régulations, marché par marché.
On peut l'illustrer d'un exemple ? Celui qui vous vient, peut-être vous travaillez beaucoup sur le marché du travail, c'est peut-être
Oui, alors sur le marché du travail, alors je sais pas, c'est peut-être un de ceux où il y a le plus de débats. Mais lui, par exemple, il défend depuis longtemps la mise en œuvre d'un contrat unique de travail. Donc avec d'un côté, actuellement en France, on a CDD et CDI. On n'est pas le seul pays. C'est le cas en Espagne, c'est le cas en Italie, c'est encore pire. Il y a 8 types de contrats standards. En Italie, et il le fait depuis très longtemps que ce type de mécanisme crée une polarisation au niveau du marché du travail, des incertitudes pour les travailleurs ainsi que pour les entreprises. Et donc le type de conclusion qu'il a, c'est qu'il faut mettre en œuvre un contrat unique qui soit avec des droits progressifs, donc les droits pour les salariés, qui se gagnent trimestre par trimestre, en quelque sorte.
Bon, c'est une manière aussi, il faut le dire, de dénoncer, parce que ça a été critiqué bien entendu, mais de dénoncer le système du CDD qui, selon lui, crée une dualité sur le marché du travail.
C'est vraiment
et une grande injustice entre ceux qui sont protégés et les autres.
Tout à fait. Donc il n'est pas le seul à dénoncer ces mécanismes de. Alors je ne sais pas si on peut parler véritablement d'injustice, parce que vous avez en plus des problématiques générationnelles, parce que ça pèse beaucoup sur les jeunes, et les jeunes rêvent d'avoir un CDI plus tard. Et c'est aussi un des éléments, en fait, non pas de blocage, mais de tension. Lorsqu'on dit on veut supprimer le CDI, même les personnes qui sont en CDD aujourd'hui peuvent être contre, parce qu'elles rêvent justement d'accéder à une situation en CDI. Donc, ce type-là, typiquement de mesures, peut-être on y reviendra, ce sont des mesures qui n'ont finalement pas été appliquées par le politique, ou que de manière extrêmement partielle. Et donc, c'est intéressant, puisque c'est un des sujets aujourd'hui, de comprendre pourquoi la théorie ne va pas nécessairement vers la pratique, c'est peut-être parce que aussi d'autres arguments viennent enrichir la réflexion. Et c'est pour ça que moi j'insiste beaucoup sur le fait que Jean Tirole est plutôt quelqu'un qui a apporté de nouveaux outils à la science économique, et on le voit moins directement sur la décision publique, puisqu'on est sur l'outil plutôt que sur l'injonction, il faut faire ça ou il faut faire ci.
Il met à disposition ses outils, et les politiques en font ce qu'ils veulent. Encore un mot, Patrick Artus, après. David Tesmar.
C'est en ce sens que le comité Nobel dit qu'il est influent, c'est-à-dire qu'il est influent parce qu'il est cité par des chercheurs. C'est-à-dire, c'est ça la notion d'influence. C'est pas qu'il tire les ficelles dans les arcades du pouvoir, c'est pas à la main que c'est.
C'est plutôt un économiste.
Vous voyez.
Je crois que là, on a bien compris ce que vous voulez dire. Patrick Artus, on parle donc de cet éclectisme, chose qui est ressortie un peu chez tous, et aussi de cette méthode, au fond, unique d'application. On a pu le lui reprocher.
Oui, mais je crois qu'il faut que nos auditeurs comprennent qu'on n'est pas dans la macroéconomie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font de la macroéconomie, ils vont en général avoir comme objectif de faire plus de croissance. Et prenez Thomas Piketty, par exemple, dit, voilà, il y a un problème macroéconomique majeur qui est le partage des revenus. Et on a un partage des revenus inefficace qui distribue trop de revenus à des gens qui en font un usage qui n'est pas favorable à la croissance. Là, on n'est pas du tout... C'est une approche qui est extrêmement intéressante aussi, mais là, on n'est pas du tout dans cette approche-là. Là, on est dans la microéconomie et on est en train de rechercher ce qui fait, et ce que disaient tous mes camarades autour de la table avant, que dans certains marchés ou dans certaines organisations, les institutions conduisent à des comportements qui ne sont pas efficaces. Et ceci peut s'appliquer de façon assez homogène à plein de sujets. Alors, je voulais donner deux exemple, un qui est plutôt de la macroéconomie et un qui est complètement de la microéconomie. Il y a un article récent de Tirole avec Emmanuel Farry, qui date de cette année, sur l'imbrication entre les dettes souveraines et les banques. Et vous voyez comment ça marche quand Tirole attaque ce sujet. Il dit voilà, on a organisé en Europe, par exemple, un système où les États sont garantis par une institution supranationale. Ça peut être la BCE, ça peut être l'Europe elle-même. Comme les États sont garantis, ils vont avoir tendance à pas bien surveiller les banques, parce que leurs dettes, finalement, pouvant être émises facilement, ils pourront sauver les banques si les banques font des investissements trop risqués. Et donc, il faut, en conséquence, superviser les banques autrement que par les États. Donc, il ne faut pas que ce soit un superviseur national, parce que sinon, les banques se disent « l'État me garantit, donc je peux faire n'importe quoi ». Et comme l'État est lui-même garanti par l'Europe, il peut lui-même faire n'importe quoi. Donc, il faut un superviseur européen qui va être indépendant des États et qui va empêcher que les banques prennent du risque, alors même que les États auraient la capacité de les sauver. Alors ça, c'est la macroéconomie. Donc, on retombe après sur tout ce qui s'est fait sur le sauvetage européen des États, sur l'union bancaire, la régulation des banques. Deuxième exemple qui est...
L'union bancaire qui l'a réclamé,
Bien sûr, mais ça vient de ça, de cette idée qu'il faut que le régulateur ne soit pas lié aux États. Voilà. Que le régulateur des banques ne soit pas lié aux États. Deuxième idée, et deuxième très gros groupe d'articles de Tirole, sur les cartes de crédit. Alors ça, c'est quelque chose qui paraît assez étonnant. Et donc là, voyez l'idée, les moyens de paiement au sens large, parce que c'est aussi bien Google, PayPal que Visa, les moyens de paiement. Et donc l'idée, c'est que les gens qui distribuent des moyens de paiement font payer les commerçants. Et ils font payer les commerçants trop cher, ça crée une inefficacité. Parce qu'ils n'intègrent pas dans la facturation des commerçants le fait que les commerçants ne peuvent pas en réalité refuser les cartes, parce que s'ils refusent les cartes, ils perdraient des clients. Et donc il faut mettre de l'ordre, il faut qu'il y ait un régulateur qui regarde ce qu'est effectivement l'avantage réel pour un commerçant de pouvoir avoir des clients supplémentaires en adhérant à un système de cartes de paiement, pour éviter la surfacturation du commerçant par le système de cartes de paiement. Et alors, comme on voit arriver toutes les boîtes d'Internet dans le système de paiement, ça devient extrêmement important aujourd'hui. Mais deux exemples qui n'ont aucun rapport. Alors, on pourrait en donner d'autres. Brigitte parlera tout à l'heure de la santé. Un truc très important qui a été fait au Conseil d'analyse économique aussi récemment, sur le droit de la faillite. En disant qu'il faut un droit de la faillite qui ne soit pas désincitatif à la création d'entreprises, à la prise de risque par les entrepreneurs, etc. Et puis les brevets, dire peut-être un petit mot aussi. L'idée qu'aujourd'hui, il y a une multiplication du dépôt de brevets et que donc c'est un obstacle à la croissance parce que quelqu'un qui veut produire doit acheter une multiplicité de brevets. Donc l'idée qu'on peut acheter des groupes de brevets qui permettent de produire au lieu de devoir acheter tous les brevets un par un. Donc vous voyez, mais ce qui est intéressant, c'est que la technologie est unique. C'est si je régule pas ou si l'État intervient pas, les incitations seront mauvaises et les gens auront des comportements déviants. Donc il faut réguler, il faut mettre des incitations qui les ramènent dans des comportements efficaces. Ouais.
C'est aussi intéressant de voir comment il est tout le temps entre rôle de l'État imparfait mais indispensable, si je traduis bien, et évidemment laisser aussi de la liberté à l'entreprise à laquelle il s'est beaucoup intéressé. Et parfois, il me semble qu'il peut y avoir ou des malentendus ou des opinions, évidemment, qui sont respectables, mais on l'a aussi critiqué, ou pour l'un ou pour l'autre, en réalité. Oui, mais peut-être un peu plus, on l'a quand même un peu plus accusé d'être libéral.
Oui, néolibéral, oui, il a été attaqué par tout le système Mediapart, évidemment. Parce que, mais très évidemment, parce que c'est un représentant de cette logique de... effectivement, de l'État régulateur. Donc l'État organise les règles du jeu, mais laisse les acteurs prendre leurs responsabilités et faire leur choix. Évidemment, non, ça c'est...
Oui, oui, c'est
On pourra revenir aussi sur sa vision d'ingénieur social, etc. Mais je vais laisser...
Brigitte Dormont.
Oui, sur le néolibéral, effectivement, c'est quelqu'un qui met beaucoup d'attention aux mécanismes, qui regarde si les individus vont agir dans tel ou tel sens et en fonction de quel élément de leur contexte. Et ça, évidemment, pour Mediapart, que j'apprécie beaucoup par ailleurs, pour Mediapart, c'est impossible parce qu'il faut faire confiance à une entité publique, même si Mediapart, par ailleurs, parle beaucoup de corruption, qui est un sujet auquel Tirole s'est intéressé. Alors, ce que je voulais dire, c'était sur la théorie économique. Il y a beaucoup de débats aussi chez des économistes qui se rangent plutôt à gauche et qui critiquent beaucoup la théorie économique. Et je trouve que Jean Tirole est un cas très intéressant que ces gens-là devraient mieux connaître parce que c'est un cas de figure où on voit bien que la théorie est vraiment, ne signifie pas abstraction du réel. C'est-à-dire qu'il vraiment, il s'intéresse à des questions concrètes de la politique économique. Et donc, pour prendre deux exemples de la santé, la question de la tarification des hôpitaux, Jean Tirole s'est intéressé à une question très importante qui est l'hétérogénéité des hôpitaux, qui n'est pas prise en compte dans les systèmes de paiement actuels.
On parle de l'hôpital.
Un autre élément, voilà,
pour lui, c'est absurde. On doit parler des hôpitaux.
Et un autre élément de très concret, c'est la question des paiements à la performance qui se développe en santé, mais qui se développe aussi dans d'autres domaines. Donc Jean Tirole a produit avec Roland Benabou un article qui est extrêmement intéressant, qui est cité par beaucoup de gens, sur les motivations intrinsèques et extrinsèques, qui sont est-ce que donner des primes à des gens pour des actions particulières risque de les démotiver et de conduire au résultat inverse du résultat recherché. Et là, Jean Tirole, contrairement à ce que des détracteurs pourraient vouloir dire, ne dit pas c'est toujours bien de mettre des primes. Il a une pensée beaucoup plus intéressante et nuancée qui s'intéresse justement aux effets contre-productifs de certaines primes. Donc je crois que c'est important de dire la théorie ne signifie pas se tourner le dos au réel du tout.
Et c'est l'économie en question et nous parlons de Jean Tirole pour notre premier sujet, Dominique Rousset, en compagnie de Brigitte Dormont, que l'on vient d'entendre, David Tesmar, Philippe Askenazy, Patrick Artus, et nous poursuivons sur ses travaux. Est-ce que je peux vous donner moi un exemple, vraiment modestement, parce que je n'ai pas, comme vous, travaillé avec Jean Tirole, ni surtout autant lu ses travaux. Mais lorsque vous parlez de son cadre d'application, de sa théorie microéconomique et de l'asymétrie d'information, on a bien compris, qui peut créer des inégalités, des irrégularités. Il y a un exemple, alors je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui moi m'a paru très intéressant. Je crois que ça se passe dans une école suédoise où on avait imposé une amende pour sanctionner les retards que mettaient les parents à récupérer leurs enfants le soir. Et donc on avait dit, on va leur demander de payer une amende s'ils laissent leurs enfants. Et on est arrivé à l'effet inverse de celui qui était recherché, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu diminuer le nombre de parents en retard pour récupérer leurs enfants, mais on l'a vu augmenter. On avait, nous dit Jean Tirole, détruit les motivations intrinsèques. On peut dire la même chose, paraît-il, des donneurs de sang entre les hommes et les femmes. Vous nous expliquez ça, je trouve que c'est un exemple assez intéressant et que tout le monde peut comprendre.
C'est cité dans le livre de Sandal
aussi. Non, c'est exactement. C'est un exemple classique, en fait. Ça fait partie de... ça fait écho exactement à l'article dont parlait Brigitte Dormont avant le jingle. Ça fait partie, effectivement, de toute la ligne de recherche. Toute la recherche un peu proustienne de Jean Tirole. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie très très introspective qui cherche un peu à comprendre les fondements psychologiques de l'action humaine. Alors il y a évidemment beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus, en économie et en psychologie. Mais lui applique à nouveau, là ça illustre un peu l'application des outils, c'est-à-dire que c'est à nouveau, il applique les outils dont parlaient
Patrick Artus
et Philippe Askenazy, qui sont les outils de la théorie des jeux et les outils de la théorie de l'information à la prise de décision, à l'introspection. C'est-à-dire que, par exemple, donc vous jouez avec vous-même. Quand vous prenez une décision, par exemple, vous jouez avec vous-même. C'est-à-dire que vous avez un vous-même futur et un vous-même présent. Et donc, vous cherchez à garder... par exemple, vous cherchez à garder votre réputation vis-à-vis de vous-même. Et ça peut vous amener à avoir des comportements compulsifs, par exemple.
C'est très intéressant.
Donc, il y a toute une série d'articles comme ça.
Patrick Artus.
Sur la fraude fiscale aussi.
Sur la fraude fiscale,
Que la meilleure arme de lutte contre la fraude fiscale, ce n'est pas des pénalités, c'est la culpabilité. culpabilisation personnelle de la personne qui ne paie pas ses impôts.
Ouais, exactement.
Hein, c'est faire savoir, en gros.
Voilà, ouais. C'est plus efficace de dire aux gens, c'est pas bien de payer vos impôts, etc., que de leur mettre des pénalités explicites.
Non, mais alors là, c'est vrai que la conclusion opératoire n'est pas évidente à tirer. Quoi. Comment on manipule l'autoréputation, comment on manipule la confiance en soi, etc., c'est pas très facile. Mais c'est effectivement.
Le courrier, c'est des choses sur le. Oui, c'est sur des relations qui sont absolument non monétaires, quoi, avec. Entre l'État et les individus.
Oui, il est même allé assez loin parce qu'il a travaillé aussi sur l'anorexie, essayé de modéliser l'anorexie. Et c'est là où il commence à être critiqué aussi en dehors des disciplines comme l'économie. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée que les économistes vont peut-être trop loin, sont trop impérialistes. Bon, voilà.
Donc se mêlent de tout, c'est ce que vous voulez dire.
Se mêlent de tout. Ouais. Et je pense qu'on est tous autour de la table d'accord pour dire que voilà, l'économie peut se mêler de tout, tout en ne prétendant pas expliquer tout, ni d'être une science véritablement centrale. Mais je crois, on parlait tout à l'heure de Mediapart, etc. S'il y a aujourd'hui une critique autour de Tirole, je pense que ça ne vient pas tant finalement de ces théories. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il est un très très grand scientifique, mais c'est aussi un entrepreneur. On a parlé de la Toulouse School of Economics, et sur ce plan-là, il y a des critiques qui vont très au-delà du cercle des économistes, sur finalement comment il a lui-même utilisé ces théories pour construire une institution où, justement, on retrouve des primes, des outils d'incitation, où on fait venir des entreprises privées, tout en n'étant pas capturé par ces entreprises parce que on va prétendre avoir les bons pourcentages dans le conseil d'administration pour éviter d'être en situation de capture. Et je crois qu'aujourd'hui, s'il est véritablement pas reconnu totalement à sa valeur scientifique, c'est parce qu'il a été un entrepreneur qui, justement, est vu par ceux qui manifestent actuellement contre les budgets alloués aux universités comme un de ceux qui a fait rentrer le loup dans le système universitaire
français. Dans la bergerie. Il s'en défend en disant qu'il faut bien payer les chercheurs pour les empêcher de partir.
Non, je ne suis pas en train de... Je suis plutôt en train de rendre compte des critiques qui sont faites autour de lui, plutôt que...
Moi, j'ai
il n'est pas le seul, et l'École d'économie de Paris se positionne en bonne concurrence pour attirer des chercheurs étrangers, ainsi que Dauphine. On essaye de faire la même chose, sans être tout à fait... Mais je crois qu'on ne peut pas critiquer l'École d'économie de Toulouse alors que tous les acteurs qui sont les premiers en France jouent ce jeu-là. Je crois que c'est très important, quand même.
Non, mais on a eu l'occasion de parler. C'est nouveau, c'est plutôt que débat, pour dire. Enfin, c'est tout un. Enfin, il y a un débat au sein des économistes, etc. Mais c'est. Enfin, à nouveau sur le. Enfin, voilà, dans les critiques qui sont faites à la discipline économique en général, au monde universitaire économique, eh bien, il y a ces éléments. Il cristallise un petit peu cette dimension. Mais à nouveau, effectivement, on est. S'il y a une culpabilité, elle est une culpabilité collective de beaucoup de grosses institutions.
On a eu l'occasion de parler de ça, je crois que David Tesmar était là, sur le système universitaire, la misère de certaines universités, et puis les grandes écoles dont vous êtes les uns et les autres les représentants, y compris les universités d'excellence, et il y a quand même des sacrées différences. Mais c'est un autre débat peut-être. Patrick Artus, on va terminer avec cela. J'aimerais bien un mot aussi d'une école française. Est-ce que vous retiendriez ce mot, compte tenu de tout ce qui nous arrive ces derniers jours, qui nous fait plutôt du bien au moral, mais pas plus que ça? Pardon, Patrick allait parler. Mais allez-y, David a beaucoup à dire ce matin.
Pas du tout, pas du tout et un petit peu. C'est-à-dire que les Français qui ont été primés par le FMI, mis à part Thomas Piketty, ont tous fait leur thèse aux États-Unis et sont tous aux États-Unis depuis leur thèse. Donc, en ce sens, ils ont été formés, ils ont fait leur prépa en France, mais à part ça, après, ils sont partis. Donc,
ce n'est pas vraiment une école.
Ah, non, bien sûr, mais vous voyez que l'école, la formation, l'essentiel de la formation ne se passe pas en France. Alors, après, c'est un pays plus sélectif. En revanche, dans le cas de Tirole, c'est vrai qu'il y a cette idée que Tirole est un. Il est membre du corps des ponts. C'est un héritier de la tradition technocratique française, des grands ingénieurs, des grands des grands technocrates, hein, donc un héritier quand même de cette tradition, des ingénieurs sociaux, des doteries, etc. Enfin, il y a une filiation qui commence même avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est quelque chose de...
Patrick Artus, une école française.
Non, je crois, je suis
l'éclectisme, quand
non,
même, dont a parlé que, David Tesmar.
Quand on regarde ce qui est produit par le système universitaire américain, c'est quand même là aussi qu'on est parti sur de l'analyse de micro-quantitatif, hein, où on va se poser des questions sur. Je regardais hier un papier, par exemple, est-ce que les femmes qui ont font des enfants tôt font de meilleures ou de moins bonnes carrières professionnelles que celles qui font des enfants tard ? Il se pose ce genre de questions. Est-ce que les enfants des mères célibataires alcooliques... non, mais je plaisante pas. Il y a plein d'articles. Et donc, cette idée qu'on va faire plus de la grande macroéconomie généraliste, mais qu'on va aller regarder des problèmes avec des données extrêmement détaillées, hein, sur des petits marchés, sur des petits comportements, c'est la direction qu'a prise la recherche américaine. La tradition française était plutôt de faire de la macroéconomie globale. Edmond Malinvaux, par exemple. Hein. Et donc, il est plutôt américain de ce point de vue-là, hein, il me semble.
Ouais. Mais vous défendez cette direction-là.
Non, mais il faut les deux. À nouveau, il faut aujourd'hui, dans les stars, il faut Tirole et Piketty, quoi, hein, qui fait toujours de la grande macroéconomie thématique. Sur un problème de macro, et puis Piketty qui fait... Je voulais dire aussi que Tirole ne fait pas que ce qu'on a dit. Il y a toute une partie, je prends 5 secondes, parce que c'est quand même extrêmement important, il a beaucoup écrit sur les bulles spéculatives.
En effet.
Quelque chose, et il a un apport extrêmement puissant pour expliquer que la bulle spéculative peut être optimale. Hein, et ça se passe dans des configurations où il y a trop d'épargne, et les entreprises ont des contraintes qui font qu'elles ne peuvent pas utiliser toute l'épargne pour investir efficacement. Et donc à ce moment-là, il est optimal de stocker l'excès d'épargne dans une bulle sur un actif spéculatif, plutôt que de faire des investissements qui seraient sous-efficaces.
Comme par exemple la dette publique.
Ouais, voilà, et donc c'est la dette publique ou l'immobilier. Et donc il y a aussi une approche de finance, hein, qui est extrêmement intéressante, et donc il n'a pas fait que des incitations.
Les tout derniers mots, si vous le souhaitez. Moi, je regrette qu'on n'ait pas encore parlé de Jean-Jacques Lafont, qui est quand même...
Dont lui-même parle beaucoup.
Oui, évidemment, parce que alors, nous, ce qu'on connaissait, c'était le Lafont Tirole, qui était un ouvrage absolument fondamental sur la régulation publique des entreprises qui ont un pouvoir de marché, pour revenir à ce qu'on disait au début. Donc, je crois que Jean-Jacques Lafont est mort en 2004, mais c'est lui qui a fondé le projet toulousain, qui a fait revenir Tirole.
C'est-à-dire cette école
en
de l'économie industrielle,
et donc,
vraiment en appuyant là-dessus.
Je pense qu'il n'y a aucun. Tirole est tout à fait reconnaissant. Il y a une fondation Jean-Jacques Lafont à Toulouse. Donc, je crois qu'il faut saluer aussi le nom de Jean-Jacques Lafont, qui pour moi s'apparente à une tradition française justement d'intérêt pour l'action publique. Je trouve qu'il y a quand même ce point-là. Voilà.
Ça reste une spécificité bien française. Et puis on va faire donc une transition avec vous, d'ailleurs, Brigitte Dormont, puisque vous avez signé avec vous, je crois que je l'ai mentionné avec lui, Jean Tirole, vous avez signé une note pour le Conseil d'analyse économique assez récemment, refonder l'assurance maladie avec également Pierre-Yves Joffard, votre grand spécialiste de politique de la santé. Et ça nous amène à notre deuxième sujet sur cette loi santé présentée. Donc c'était en Conseil des ministres seulement cette semaine, c'était mercredi. Et c'est une loi qui doit maintenant évidemment passer devant le Parlement, où elle devrait être votée. Les grandes lignes, je les rappelle très brièvement, et on verra sur lesquels points on va s'arrêter, et plus largement comment on peut débattre ensemble de notre système de santé. Prévention, dont d'ailleurs la qualité nutritionnelle des produits alimentaires, c'est un sujet très, très à la mode et qui est très important et qui a beaucoup retenu les commentaires dans la presse, je l'ai vu. Donc dans la prévention, les aliments, la réduction du tabagisme, l'alcoolisme chez les jeunes, et le cadre aussi, ça a été évoqué par la presse ces jours-ci, pour l'expérimentation de salles de consommation de drogue à moindre risque, dites salles de shoot. L'innovation également, autre grand chapitre de cette loi santé, des plans de gestion par exemple pour les pénuries de médicaments, ça existe. La réorganisation d'un cycle d'études médicales, on revient sur l'enseignement, l'amélioration de la formation professionnelle continue parmi les thèmes proposés. Autre point sur lesquels peut-être on va s'arrêter davantage, nous, le service territorial de santé au public. Alors là, il y a plusieurs domaines, hein. Les soins de proximité, la permanence des soins, la prévention de la santé mentale,
ça c'est un vrai sujet, mais on n'a peut-être pas le temps de l'aborder, l'accès aux soins des personnes handicapées, et puis la façon dont les patients ont les relations à l'hôpital, une lettre de liaison par exemple pour chaque patient qui sort de l'hôpital pour assurer un lien avec les professionnels de ville. Et là on voit bien le rapport hôpital-médecine de ville qui va nous occuper tout de suite. Et enfin, dans la politique de la santé, je veux juste rappeler l'unicité de la politique de santé. C'est un vœu, bien entendu, du gouvernement et qui souhaite améliorer l'articulation des interventions de l'État et de l'assurance maladie. Là, on touche à des choses qui sont directement dans vos thèmes, Brigitte Dormont. Que retenez-vous de tout cela? Je l'ai évoqué brièvement, il y a beaucoup plus.
Oui, merci. Alors, je crois que la chose principale à dire, c'est qu'il y a une sorte de brouillage médiatique autour de deux événements, entre guillemets, touchant la santé, qui sont le projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2015, qui était annoncé il y a 2 semaines, et la loi de santé de Marisol Touraine, qui normalement doit être discutée au premier trimestre 2015. Et je ne sais pas très bien pourquoi, je ne sais pas si c'était programmé ou pas, a été présentée une semaine après au Conseil des ministres. Donc à mon avis, c'est un écran pour masquer les choses douloureuses qu'il y a dans le PLFSS 2015. Et donc on ne parle que de la loi de santé publique maintenant. Et à propos du PLFSS, on ne parle que des dispositions sur la politique familiale. Donc je voudrais en fait parler des deux. Et je pense que cette gestion médiatique, je trouve que le gouvernement actuel fait beaucoup de stratégies de communication pour emballer des choses plus ou moins agréables et de façon à ce que ça passe. Et donc là, il y a quand même des choses assez douloureuses dans ce PLFSS. Il y a la continuation d'économies qui sont insuffisantes pour certains, mais qui sont quand même encore très conséquentes. Donc il y a un projet de réduction, enfin d'économie de plus de 3 milliards d'euros juste pour la santé, et dont la moitié doit peser sur le médicament. Donc là, il y a quand même quelque chose d'assez fort qui est mis, et avec d'autres dispositions. Donc il y a un seul élément commun à la loi de santé et au PLFSS, qui est la mise en œuvre du tiers payant. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose dont il faut parler, qui est aussi un élément d'annonce, je dirais, pour faire passer la pilule, pour employer le terme. Et donc, à mon avis, il faut parler des deux choses. Alors, la loi de santé, c'est quelque chose d'assez étonnant à nos yeux. Et je pense que Philippe Askenazy doit penser ça aussi, puisque c'est très, très proche de la première note qu'on avait faite dans le cadre du Conseil d'analyse économique.
Vous aviez fait ensemble, là, tous les deux.
On a fait ensemble avec Pierre-Yves Joffard et Valérie Pérez de l'OCDE, donc qui s'intéressait à promouvoir des gains d'efficience dans le système de santé, et où on parlait de réorganisation territoriale, de plus grande responsabilité des agences régionales de santé. Donc il y a des choses qu'on retrouve dans la loi de santé. Alors pour continuer dans les généralités, avant d'aller dans les choses un peu plus précises, moi, cette double annonce PLFSS, loi de santé...
Je reprends le projet de loi de finances de la sécurité sociale.
Oui, c'est la Nation, depuis 1997 et le plan Juppé, décide en avant, à l'avance, de combien vont être dépensés pour la santé. C'est voté au Parlement. Donc, il y a cette annonce du projet de loi de finances de la sécurité sociale et de la loi de santé en même temps. Là-dessus, il y a quelque chose qui fait un bruitage, qui est la loi... Macron, je ne sais plus comment elle s'appelle, promouvoir l'économie, qui prend la file d'un rapport IGF sur les professions réglementées, qui peut toucher les médecins, les infirmières, les taxis, etc. Donc il y a ces trois annonces, et donc je voudrais juste terminer.
Vous dénoncez un peu le brouillage.
Je dirais qu'il y a un double pilotage Bercy-Ségur, pour le dire très, très rapidement.
Et Avenue de Ségur, attention, je vous reprends encore.
Qui nuit à la régulation. Alors Bercy, ministère des Finances, Ségur, ministère de la Santé.
Le siège du ministère de la Santé, à Paris.
Qui ne va pas, parce qu'on ne peut pas ne pas intégrer la dimension financière, la dimension de l'assurance, quand on parle de réorganisation du système de soins. Or là, on nous dit, les finances, c'est le Bercy, et la réorganisation, c'est le ministère de la Santé, qui met un peu du baume au cœur des professions de santé. Mais on ne voit pas comment les dispositions de cette loi de santé peuvent devenir effectives sans dimension financière. Et il y a un silence radio dans cette loi sur la dimension financière.
Vous avez dit d'ailleurs, Brigitte Dormont, d'ailleurs, que le système de santé en France, que vous ne reniez pas du tout, mais est un dédale organisationnel. C'est bien dommage. Voilà. C'est un maquis tarifaire
illisible. J'ai l'impression qu'on va plusieurs couches de dédale. Voilà.
Et c'est bien dommage, car il est loin d'être mauvais, ce système-là. Mais il n'est pas piloté. C'est bien votre critique principale, Philippe Askenazy.
Oui, je rejoins en grande partie les remarques de Brigitte Dormont. Déjà, de cette loi santé, on ne connaît pas la pondération des différentes mesures. Enfin, c'est un très long catalogue. Et là, on est loin d'avoir fait tout le catalogue, hein, parce qu'il y a la relance du dossier médical personnalisé qui, comme relance principale, devient dossier médical partagé, c'est donc les mêmes acronymes.
Il y a la question des données, je ne l'ai même pas citée.
Voilà, oui. Donc, ça, c'est des sujets qui sont, et on en avait parlé avec Brigitte Dormont dans la même note, qui sont des éléments qui sont absolument essentiels. Et donc, aujourd'hui, effectivement, on ne sait pas véritablement où va le système de santé français. On aurait dû, en fait, couper deux lois. Et je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu systématique dans la manie. Ça ne touche pas que la santé, dans la manière dont on est gouverné actuellement, on a des lois qui devraient être menées ensemble, enfin à la fois les problèmes financiers, les problèmes de transformation des structures et surtout les segments et pas uniquement la santé. Et or, on dissocie de manière un petit peu systématique et ça donne quelque chose qui est très illisible. On aurait pu tout à fait construire, on va faire des économies en faisant tel et tel type de réforme au niveau d'une loi santé. C'est pas le cas et à nouveau on ne sait pas véritablement où va la politique aujourd'hui. Alors il faut quand même noter que dans la loi santé il y a des éléments, vous citiez au départ les éléments nutritionnels, qui là n'impliquent pas de coût. Voilà. Alors sur ce plan-là, je pense que on peut aussi en discuter. Il n'y a pas que le coût en termes de santé. Il y a des éléments aussi de politique pour modifier les comportements, soit des consommateurs, soit des entreprises elles-mêmes, passent... des leviers qui sont très puissants et qui sont, eux, générateurs d'économies de long terme.
Par de l'information et de la bonne communication.
Voilà, on reparle d'information.
On reparle d'information et de communication. Oui, Patrick Artus, oui. David Desmar, sur ces points, mais vous pouvez en débattre, bien sûr.
Je vais essayer de partir un peu en amont. Quand le Conseil des économies qui a remis il y a 15 jours au Premier ministre un rapport sur la croissance potentielle de la France. Alors ce rapport ne donne pas d'évaluation nouvelle, mais reprend la moyenne des évaluations existantes. Disons que dans l'hypothèse la plus monstrueusement optimiste, la croissance potentielle de la France est de 1% par an. Et donc, comme on se place en France dans un système de santé qui est pratiquement entièrement à la charge de l'État, à l'État c'est 75%, les ménages c'est 8%, le reste c'est les mutuelles. Mais enfin, c'est la part de l'État est très au-dessus de celle de la moyenne des pays de l'OCDE qui est autour de 65%, etc. On a un système public et donc ce système public va être sous la contrainte de ne pas laisser la dépense de santé augmenter plus vite que le PIB potentiel. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? La dépense de santé en volume augmente de 2% par an. Et en valeur, elle augmente à peine plus parce qu'on a réussi à faire baisser les prix. Hein, et on a réussi à faire baisser les prix essentiellement par les génériques.
Les médecins, les médicaments génériques.
Le passage au générique, considérant le prix des médicaments, baisse de 3 ou 4% par an. Simplement, on voit bien qu'on va atteindre la limite de cette recette. D'abord, il apparaît, vous voyez le débat sur l'hépatite, des médicaments nouveaux extrêmement chers, comment on va faire? Et puis, on ne peut pas... Bon, c'est générique, on peut continuer, mais enfin, on va arriver à une limite. Donc moi, je pense que dans la régulation actuelle du système de santé, les choses vont exploser. C'est-à-dire que la dépense de santé ne pourra pas être contrainte à n'augmenter pas plus vite que le PIB par la technologie actuelle. Et donc, au lieu de continuer à faire des petites mesures, on va mettre un peu plus de génériques, on va négocier le tiers payant contre les génériques, on va fermer quelques hôpitaux, il faut se poser une question, à mon avis, radicalement plus globale, qui est qui, in fine, comment se répartit la dépense de santé entre les ménages, l'État, les ménages, l'État et le secteur privé. Cette réflexion, on ne l'a pas. Et je pense que assez vite, on va voir exploser les déficits de la santé.
Oui. David Desmar, Brigitte Dormont veut vous répondre. Oui.
Oui, je vais pousser un peu dans la même direction que Patrick Artus, mais pour des raisons un peu différentes. C'est-à-dire que contrairement à lui, je pense que c'est assez normal que les dépenses de santé en proportion du PIB augmente, elles augmentent plus vite.
Sauf qu'il ne faut pas considérer à ce moment-là que c'est un bien public entièrement pris en charge par l'État.
Parce que quand une économie devient plus riche, la santé c'est un bien de luxe, de même que l'éducation d'ailleurs. C'est d'ailleurs des problématiques assez similaires. Et par exemple,
on le voit avec les mutuelles, hein, que ça commence à être
non, mais
on voit,
c'est les dépenses, mais c'est les dépenses au sens de la. Faut le voir aussi comme forme de production, c'est-à-dire qu'en fait c'est des secteurs qui sont sont amenés, ils sont les secteurs du futur. Hein. La santé et l'éducation, c'est les secteurs du futur. Mmh. Et c'est des secteurs qui sont traditionnellement en France très, très, très nationalisés. Et effectivement, c'est là où je suis d'accord avec vous, que quand c'est des secteurs très... Si les secteurs du futur sont des secteurs nationalisés, ben, peut-être qu'au bout d'un moment, si on ne veut pas que l'intégralité de l'économie soit collectivisée, il va falloir trouver un moyen de faire,
un accord.
On est complètement d'accord.
Il y a l'équilibre. On va laisser la santé produire de la croissance et où le déficit public de la santé va être considérable, et le déficit où on va rationner la santé et où on perdra de la croissance.
Absolument. Ouais.
Alors, ils sont d'accord tous les deux, c'est pas certain qu'ils le soient tous les quatre.
Juste pour
faire plaisir à David Tesmar, une petite virgule de plus sur l'économie en question à 11h44, Dominique Rousset en compagnie de Brigitte Dormont, David Tesmar, de Patrick Artus et Philippe Askenazy, que je voyais faire quelques grimaces.
Oui, j'arrive pas du tout à comprendre mes collègues. Hein. In fine, de toute manière, au bout du bout, c'est toujours les citoyens qui payent, que ce soit par leur poche directement ou à travers des impôts ou des cotisations sociales. Donc si on admet qu'il faut dépenser plus pour la santé, de toute manière, c'est un problème collectif qui intéresse tout le monde. Et même si on avait un système totalement privé. Alors déjà, il faut bien voir qu'en France, c'est pas parce que la sécurité sociale est publique que les acteurs de santé sont publics. On n'est pas en Grande-Bretagne où quasiment tout le secteur de la santé est à la fois public, enfin, il n'y a même pas d'assurance, quasiment tout le secteur est entièrement fonctionnarisé, que ce soit même les médecins de ville. Donc y a une grande différence entre dire un financement d'ordre public et un financement et un secteur qui serait public ou privé. Donc ça, c'est un premier point. Alors, donc si on accepte que ça doit grandir, après c'est un problème de construction de la solidarité au niveau d'un pays. Et si on veut avoir une assurance publique ou bien des assureurs privés avec des assurances obligatoires, et où on constate par exemple qu'aux États-Unis vous avez à peu près 20% du surcoût de la médecine américaine qui sont uniquement les profits des assureurs privés américains. Donc je crois qu'il ne faut pas entretenir une confusion entre le public et la réalité du privé. On peut tout à fait avoir des professionnels de la santé totalement privés et puis un fonctionnement qui soit 100% public en termes de financement
La position est un peu subtile. Je vais laisser la parole à Brigitte Dormont. La
ça
position est un peu plus subtile.
Vous laisser la parole. David Tesmar, très vite. C'est vrai que le temps passe vite.
La question, c'est pas tellement est-ce que c'est privé ou est-ce que c'est public. De toute façon, ça doit être dépensé. La question, c'est est-ce que c'est centralisé ou décentralisé. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, la gestion de l'assurance doit être monolithique ou non monolithique? Est-ce que les hôpitaux, dont une partie sont privés, puisqu'il y a des cliniques, et une partie sont des hôpitaux qui ne sont pas à but lucratif, et d'autres sont vraiment beaucoup plus dans la gestion centralisée du ministère de la Santé, comment ça doit fonctionner? Est-ce qu'on doit croire à la décentralisation? Est-ce qu'on doit croire à la concurrence? Ouais. Quelle est la part du but lucratif là-dedans? Probablement qu'elle n'est pas intégrale, mais il est probable que la gestion monolithique n'est probablement pas la bonne façon de faire.
Et restons peut-être cette question des assurances.
Intervenir sur ce qui a été dit. En fait, sur le passé, on voit que les dépenses de santé ont cru plus vite que le produit intérieur brut des pays développés. Oui. On ne sait pas où on va dans le futur. Là-dessus s'articulent plusieurs questions. Il y a une question qui est celle du partage entre couverture universelle basée sur la solidarité et assurance privée non basée sur la solidarité, parce que comme on l'a montré dans notre note avec Jean Tirole, le partage public-privé n'est pas exactement égal au partage solidaire-pas solidaire. On peut avoir des assurances privées régulées sur un mode solidaire. Donc la question du partage, la question c'est est-ce qu'on assure les gens pour qu'ils aient un accès sécurisé aux soins à travers un mécanisme solidaire, ou est-ce qu'on dit on verrouille la croissance des dépenses de santé et le reste, ça sera du privé, il y aura des inégalités. Moi, j'ai des convictions personnelles, mais en tant qu'économiste, je pense que ce qu'il faut faire, c'est prendre des décisions en accord avec les préférences collectives et donc mettre en place des mécanismes d'élucidation des préférences des Français ici, en matière de solidarité. Il y a une autre question qui est celle que David Tesmar vient traiter. Qui est celle de l'efficience du système, qui est une question complètement différente, qui est par quel mécanisme on gagne en efficience. Actuellement, il faut dire quand même qu'on a beaucoup gagné en efficience grâce aux médicaments et qu'il y a encore beaucoup de marge de manœuvre dessus, quand même, malgré tout, parce que quand on se compare avec l'Allemagne, l'Allemagne a 3/4 de prescriptions en générique, la France, moins d'un quart. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de marge de manœuvre. Et il faut savoir que depuis 2000, la croissance des dépenses de santé n'est pas plus rapide que celle du PIB. Donc, c'est quand même, il y a vraiment des marges de manœuvre sur une très longue période. Alors, l'autre point que je voulais dire...
Et alors, est-ce qu'on a...
L'autre point que je voulais dire qui est très important, c'est que l'assurance collective solidaire a permis la croissance des dépenses de santé. Ça permet l'accès aux soins. Et il y a eu des contreparties sur la longue période quand on fait des études. Et même les Américains de l'école de Chicago l'ont fait. On trouve qu'il y a des gains en bien-être absolument colossaux associés à cet accès aux soins, ce développement de la consommation.
Elle a évité vraiment la destruction sociale qu'on aurait pu...
Non, c'est justement... oui, ça, mais même beaucoup plus. C'est les gains en santé, en longévité. Ça a une valeur... Alors, ce que je voudrais encore dire quelque chose sur l'innovation. C'est... À l'avenir, on ne sait absolument pas vers quoi on va. Parce qu'effectivement, il y a des molécules nouvelles, comme la découverte sur l'hépatite C, qui sont chiffrées à un traitement de 60 000 euros par personne traitée. Donc on aurait au moins 1 milliard d'euros de coûts pour l'année à venir si on ne restreint pas les choses. Mais en même temps, il y a des découvertes absolument radicales qui permettraient de faire des chimiothérapies à domicile, par voie orale. Et là, par exemple, ça, je vais faire hurler peut-être des gens qui écoutent, mais tous les centres de traitement de lutte contre le cancer qui sont un océan de petits centres avec beaucoup d'emplois, avec beaucoup de choses, pourraient être recyclés vers d'autres tâches. Donc il est possible qu'il y ait vraiment des gains d'efficience absolument colossaux qui nous attendent. Alors il y a un enjeu très français qui est effectivement tous ces gains d'efficience, il faut les mettre en musique avec des réorganisations très importantes sur le plan de l'organisation de la santé et ça c'est pas simple.
Ce qui nous manque y compris au plan territorial. Mais je voudrais encore un mot, Brigitte Dormont, puis vous réagirez bien sûr, sur la question des mutuelles de cette prévention. Il est vrai que les complémentaires ont permis que la sécurité sociale soit moins lourdement chargée, ont rendu bien des services et elles continuent de le faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas là un creusement d'inégalités très important? Et quand on parle de mutuelle, de quoi on parle? Il y a plein de manières d'avoir des complémentaires.
Alors,
les Et vous mutuelles... avez deux ou trois chiffres là-dessus, je crois que vous les aviez cités, c'est près de...
Il y a beaucoup d'inégalités en matière d'accès à l'assurance complémentaire. Donc, il faut parler de complémentaire santé. Les mutuelles, c'est un des acteurs privés à but non lucratif de ces complémentaires santé. Il y a aussi des sociétés d'assurance et des institutions de prévoyance, très liés aux syndicats. Donc, il faut savoir, donc ça, on le souligne vraiment dans la première note avec Philippe, que la pente savonneuse sur laquelle est l'État français depuis des décennies, c'est au lieu de faire attention à ce que les dépenses de santé soient plus efficientes avec une bonne organisation dans la production de soins, toute contrainte budgétaire est gérée en faisant glisser vers les complémentaires les dépenses qu'on n'arrive pas à maîtriser. Voilà. Et ce qu'on souligne, c'est que c'est catastrophique pour tous les assurés sociaux, parce qu'il n'y a aucune maîtrise des dépenses. Donc les gens dépensent toujours de leur poche énormément en cotisation sécurité sociale et en prime d'assurance complémentaire. Et il n'y a aucune maîtrise des dépenses de soins, alors qu'on finit toujours par dépenser pour ces soins.
Ce qui veut dire qu'en cas de catastrophe de santé vraiment importante, beaucoup de ménages français se retrouvent
Donc il y a des restes à charge considérables pour les 1%.
Il y a la sécurité sociale, mais
pour les 1% des dépenses des gens qui dépensent en haut, il y a en moyenne 5 000 euros par an de dépenses. Donc il y a un défaut de protection assurancielle criant. Et la France est le seul pays où les restes à charge ne sont pas plafonnés. Et ça, personne n'en parle. Personne ne parle du fait qu'il n'y a pas de protection contre les dépenses qu'on dirait catastrophiques.
Voilà. Alors, c'est pour revenir sur ce qu'on vous amener, parce que je trouve que ce sont des chiffres quand même, si on compare avec d'autres pays.
Je voulais quand même ajouter sur ce qu'on dit avec Jean Tirole dans la note. Justement, ce qui nous semble vraiment en défaut en France, donc on préconise évidemment un plafonnement des restes à charge, mais ce qui nous semble vraiment en défaut en France, c'est le fait qu'il y ait deux acteurs historiques, les complémentaires et la sécurité sociale, qui concourent à couvrir le même soin. Et que ça, donc on le détaille très fortement, ça conduit à d'énormes inefficiences et que l'essentiel à terme, évidemment c'est une réforme qui sera très complexe à mener, c'est d'unifier le financement des soins. Donc soit que des assurances privées en concurrence régulée couvrent tout, soit que la sécurité sociale couvre tout, avec une organisation territoriale. Mais le gros défaut congénital du système français, qui est unique au monde ou presque, c'est cette co-couverture par des acteurs différents de la même chose, la même consultation.
Voilà, analyse de Brigitte Dormont. Et de Jean Tirole, et aussi de Philippe Askenazy, s'il en serait faire à leurs différents travaux, mais pas seulement eux. Pierre-Yves Jaufard, que j'aime bien citer aussi.
C'est pas une analyse d'ailleurs qui pousse David vers Tesmar, le monolithisme, et on conclut là-dessus. Je me souviens bien de la lecture du rapport. L'idée, c'est que vraiment, tout votre risque santé doit être couvert par une seule institution, mais vous pouvez potentiellement avoir le choix. On pourrait imaginer plusieurs caisses de sécu régionales, et vous avez le choix entre vous mettre avec la caisse de sécu de Toulouse, ou de Bordeaux, etc. Donc ça pousse pas vers le monolithisme, les recommandations de ce rapport.
Dernier mot, Patrick Artus, sur
On est d'accord sur plein de choses. Je crois simplement que malheureusement, on voit deux choses. D'abord, les mutuelles, le plus souvent, sont des prélèvements obligatoires. Donc, il ne faut pas jouer sur les mots. Donc, quand l'État se défausse du problème en repoussant sur les mutuelles, c'est des prélèvements obligatoires gérés par des gens qui ne sont pas l'État, mais c'est des prélèvements obligatoires. Donc, ça ne change pas la nature du problème.
Et la loi pousse dans le sens.
Oui, la loi pousse dans le sens. Donc là, on est dans de l'habillage pur. Deuxième chose, je redis ce qu'on a dit, je crois, avec David tout à l'heure. Il ne faut pas se placer dans une logique de rationnement de la croissance en volume de la dépense de santé. C'est-à-dire, quelle que soit l'organisation retenue, et on a aussi l'impression que c'est comme vers ça qu'on se dirige, la contrainte que la dépense totale de santé n'évolue pas plus que le PIB est une contrainte absolument catastrophique, parce qu'à nouveau, ça fait partie des 3 ou 4 secteurs sur lesquels on peut baser de la croissance. Donc il faut arrêter de jouer sur les mots, et il faut laisser la dépense de santé croître plus vite que le PIB. Et le reste, après, il y a plein d'options, mais je crois que c'est les deux choses les plus importantes.
De l'analyse des travaux à l'application par les politiques. C'était notre premier sujet avec Jean Tirole. On vient d'en donner une deuxième illustration avec le système de santé. Je sais que Brigitte Dormont aurait beaucoup encore à nous dire. Je vous renvoie tous à ces travaux. Avons-nous le temps pour quelques actualités invisibles que je n'ai pas signalées en commençant l'émission? Peut-être au moins une, deux, trois. Patrick Artus est prêt, David aussi, Brigitte Dormont. On commence par Brigitte Dormont.
Encore. Bon, alors, c'est pas très modeste, mais nous avons produit au Conseil d'analyse économique une note qui est parue la semaine dernière sur les inégalités salariales entre femmes et hommes. Et donc, notre note est devenue tout à fait d'actualité avec les discussions sur la politique familiale. Donc, je voulais juste dire que nous parlons beaucoup du quotient conjugal en matière d'impôts et aussi de congés de parentalité. Et on est plusieurs à réagir sur les débats actuels en matière de loi famille. On trouve que la famille a bon dos. Derrière ces réformes, il n'y a pas que la recherche d'économies budgétaires, même si c'est sans doute une motivation importante, mais il y a un véritable enjeu de statut des femmes derrière l'égalisation du congé de parentalité. Et on peut réfléchir aux choses autrement en disant il vaut mieux couvrir le congé parentalité plutôt que de dire il faut que les femmes prennent 3 ans de congé parentalité.
C'est dit, merci. Là encore, on va renvoyer à votre note toute récente. David Tesmar, actualité invisible, très rapidement, merci.
Déclaration d'Emmanuel Macron, si le CICE sert à augmenter massivement les salaires, donc c'est une partie du pré-pacte de responsabilité, de la politique du socialisme de l'offre. Donc si le CICE sert à augmenter massivement les salaires, ce n'est pas une bonne chose. C'est dur à dire dans la période qu'on vit, mais c'est vrai. Donc étonnant venant d'un ministre socialiste et surtout, qui montre qu'il y a un sophisme économique sur lequel se base cette croyance, qui est que quand on baisse les charges sociales, on ne fait pas monter les salaires, mais ils montent tout seuls les salaires. Et ça, c'est un problème très très important parce que c'est ce qui va rendre complètement inefficaces les dépenses formidables créées par le pacte de responsabilité.
J'ai un mot à dire là-dessus sur la note de l'OCDE, David Tesmar, mais on n'a peut-être pas le temps. Philippe Askenazy.
Oui, la multiplication des mouvements de grève en dehors de la France, on a beaucoup parlé de Air France, etc., mais on n'est pas du tout le seul pays à être touché par des mouvements massifs. Donc là, aujourd'hui, par exemple, il y a une grève majeure de la Deutsche Bahn en Allemagne. Vous avez une des grandes chaînes de supermarchés belges qui est également en grève, et pratiquement tous les supermarchés vont fermer. Auparavant, on en avait vu en Grande-Bretagne, un petit peu partout en Europe, des mouvements sociaux touchant soit de grandes entreprises nationales ou privées sont en train de naître, et en partie sur les questions salariales. Donc peut-être les entreprises françaises aussi utilisent le CICE pour augmenter les salaires, mais aussi pour éviter potentiellement des mouvements sociaux.
Merci Philippe Askenazy. Patrick Artus, en 30 secondes.
Juste pour dire à nos auditeurs que le pétrole vaut 84 dollars le baril, alors qu'on pensait qu'il vaudrait aujourd'hui 120 dollars le baril.
Faut en acheter.
C'est pas la question. Et leur montrer que c'est monstrueux comme choc. On n'en parle pas assez. Ça représente 25% de baisse du prix du pétrole. 25% de baisse du prix du pétrole, c'est un point de PIB en plus. Et donc c'est quand même énorme comme choc. Et on n'en parle pas assez. Et c'est quand même une bonne nouvelle pour nous, mais pas forcément une bonne nouvelle pour les Russes, les Algériens et les Saoudiens. Mais pour nous, c'est une bonne nouvelle dont on sous-estime la taille.
Bien, revenir là encore, je n'ai pas eu le temps de vous demander votre avis sur l'analyse de l'OCDE qui voit la France plutôt bien partie grâce aux réformes qu'elle a engagées et qui fait confiance également à ce que, le ministre de l'économie...
On a du mal à croire qu'ils sont dans le 16e arrondissement.
On ne commente pas, c'était une information. Invisible peut-être. Merci à tous les quatre. Ghislaine David, Alexandre Dang ont réalisé notre émission. C'est Laurent Genepin qui a assuré la préparation, la documentation. Comme vous l'avez compris, beaucoup de biblios à trouver sur notre site, vos commentaires. Ils sont également les bienvenus, notamment sur toutes ces notes autour de Jean Tirole et autour de la santé. Et puis d'autres choses encore. Très bonne journée à tous. C'est l'heure de passer la parole à Dominique Souchier, une fois pour toutes.